Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Alors aujourd'hui, nous allons retrouver Benoît Béhard-Deric pour la suite de la conversation que nous avions entamée avec lui la semaine dernière. Benoît Béhard-Deric est historien et philosophe, collaborateur scientifique ici à l'ULB. Et la semaine passée, nous avions parler avec lui du premier roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Alors pourquoi parler du nom de la rose, qui date quand même déjà d'il y a de nombreuses années? Eh bien parce qu'une nouvelle adaptation vient d'en être réalisée, une adaptation en bande dessinée. Aux manettes de cette adaptation, c'est Milo Manara, et le deuxième volume de la BD est sorti il y a peu de temps. Donc voilà, c'était l'occasion de reparler du nom de la rose, le roman, mais aussi le film, puisqu'on a beaucoup parlé du film de Jean-Jacques Hano, en insistant notamment sur le fait que ce film était historiquement très très juste. Alors, Le nom de la rose, c'est un livre. C'est à la fois une enquête policière, c'est un portrait aussi des changements au sein des ordres ecclésiastiques de cette époque, au Moyen-Âge, mais c'est aussi une source immense de citations et de renvois vers d'autres auteurs ou savants. Et c'est en partie de cela que nous allons parler maintenant avec Benoît Béhard-Deric. Mais d'abord, revenons sur le côté historiquement juste. Est-ce que... Si le film, lui, était très juste, est-ce que le livre, lui aussi, respectait l'histoire dans ses plus petits détails? Benoît Béhard-Deric. Alors, Benoît Béhard-Deric, vous venez d'évoquer justement tout le travail de justesse qui a été réalisé pour cette adaptation cinématographique du Nom de la Rose. Vous le disiez en début d'interview, Umberto Eco est lui-même un médiéviste. Est-ce que dans son travail d'écriture, dans le roman d'origine, il y a aussi un respect de l'histoire de l'époque?
Oui, c'est ce qui rend ce livre tout à fait intéressant, admirable et très plaisant à lire, y compris pour des médiévistes, parce que Umberto Eco est très rarement pris en défaut. Finalement, ce livre est vraiment une excellente introduction au Moyen-Âge, à la pensée médiévale. Le film aussi, mais avec quelques divergences. Et je dirais pour le grand public, par exemple, ce film a quand même remis un peu le Moyen-Âge sur le devant de la scène. Mais c'est très différent d'un autre film qui a eu aussi beaucoup de succès pour rendre de nouveau populaire le Moyen-Âge, c'est Les Visiteurs, mais là, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc ici, effectivement, avec ce film, mais surtout avec ce livre, on a un excellent ouvrage sur le Moyen-Âge, sur la pensée médiévale. On y trouve toute une présentation. On peut vraiment prendre plein de thèmes qui peuvent être développés sur base de ce livre, qu'il s'agisse des hérésies médiévales, qu'il s'agisse de l'Inquisition qui a été créée pour lutter contre les hérésies médiévales, qu'il s'agisse des différents ordres religieux, les bénédictins, la tendance, les tensions au sein même de l'ordre monastique entre les clunisiens et les cisterciens. Les clunisiens qui sont beaucoup plus en faveur d'une vénération de Dieu par la splendeur, par la richesse de l'ornementation, etc. Les cisterciens qui sont beaucoup plus davantage dans une démarche austère et simple, à l'image de Saint Bernard. On trouve aussi une présentation des franciscains, des dominicains. On entre dans dans l'histoire des conflits entre la papauté et l'empire. On a aussi beaucoup de développement sur la pensée symbolique du Moyen-Âge, que ce soit par rapport au nombre, aux gemmes, aux pierres, aux plantes, aussi donc oui, la pensée symbolique de l'architecture aussi. Donc cette pensée du Moyen-Âge qui renvoie au toute la géographie aussi, tout l'imaginaire géographique. Donc ce livre est extrêmement riche de ce point de vue-là. Et donc c'est vraiment un livre qui a été écrit par un médiéviste et qui donne une image aussi assez original du Moyen Âge dans la mesure où, pour une fois, on a un Moyen Âge qui n'est pas directement un Moyen Âge de châteaux, de chevaliers, de gentes dames, etc. C'est dans un univers chrétien monastique. Il y a d'ailleurs très peu de rôles de femmes. Hein. Il y en a qu'une. Il y a qu'un personnage féminin qui apparaît. Mais ça permet de comprendre aussi, même si cette abbaye ressemble un peu à un château quand même. On a quand même un peu le château médiéval, même si ici c'est bien d'une abbaye qu'il s'agit. Ça permet de comprendre aussi les rapports entre l'abbaye et le village et les paysans qui sont à proximité. On voit à un moment la dîme, enfin on lit le passage où les paysans doivent donner un impôt, enfin s'acquitter d'un impôt en nature auprès de l'abbaye. Donc l'abbaye et l'abbé et le seigneur, c'est une seigneurie, mais une seigneurie ecclésiastique. Tout ce processus est bien montré. Donc aussi le fonctionnement d'un scriptorium, le fonctionnement d'une bibliothèque médiévale. On voit aussi toute la dimension matérielle avec l'alimentation, le fonctionnement de l'économie en quelque sorte de cette abbaye, ce que mangent les moines. Il y a aussi on entre aussi assez fréquemment dans l'herboristerie. On a une connaissance de toutes les fonctions d'une abbaye et des moines dans une abbaye: le cellairier, l'herboriste, le bibliothécaire, l'assistant bibliothécaire, enfin voilà, tous ces aspects-là sont très très bien développé. Par contre, ah oui, il y a aussi la dimension du savoir. Donc, c'est pas du tout caricatural, même si certains vont être plus tournés vers le passé et vont considérer comme Jorge de Burgos, qui est l'aveugle, le vieil aveugle, qui est un ancien. On apprend par la suite qu'il a été lui-même bibliothécaire, un bibliothécaire très savant, on ne le sait pas tout de suite, qui est en fait une référence à Jorge Luis Borges. Hein, c'est une référence à ce grand écrivain argentin, aveugle, qui lui-même était à la tête de la bibliothèque de Buenos Aires. On apprend par lui, ben, il est très savant, mais il pense que la bibliothèque est le lieu du témoignage de la vérité et de l'erreur, et qu'il faut contrôler en fait la diffusion de la connaissance. Et donc il est dans une vision un peu passéiste et rétrograde, et surtout de contrôle et de censure sur la connaissance. Les livres ne sont pas là pour être diffusés, mais pour être conservés, contrôlés, gardés. Et à l'inverse, Guillaume de Baskerville, lui, est au contraire dans la diffusion du savoir et pense qu'on doit pouvoir justement faire connaître les livres, les diffuser, les copier. Et c'est une démarche complètement inverse. Mais que ce soit finalement la pensée conservatrice ancienne ou la pensée progressiste moderne de Guillaume, eh bien, on a en tout cas un livre qui est centré sur l'intellectualité, sur les livres, sur la connaissance au Moyen-Âge, ce qui était effectivement le cas, mais parfois certains ne savent pas qu'il y avait quand même une véritable pensée médiévale et une véritable diffusion malgré tout du savoir. Donc tout ça apparaît bien dans le livre. Maintenant, il y a quand même le point de vue d'Umberto Eco sur tout ça, et aussi de Jean-Jacques Hano, qui est un point de vue un peu plus pessimiste malgré tout, et un peu hostile quand même à l'Église, ou à une certaine forme d'Église, parce que eh bien, celui qui sort son épingle du jeu, en quelque sorte, c'est quand même un religieux, c'est un franciscain, c'est Guillaume de Baskerville. Lui est sympathique, mais tous les autres, enfin Adso aussi, relativement sympathique, même si lui pense plutôt à la manière ancienne, d'ailleurs, je disais, par rapport à son maître, qui lui est tourné vers le futur, mais les autres représentants de l'Église sont évidemment davantage du côté d'une Église un peu obscurantiste, qui contrôle le savoir et qui punit aussi, puisqu'il y a ce rôle de l'inquisiteur, qui a vraiment existé, hein, qui est Bernard Guy, qui meurt dans le film. Donc là, c'est une comment dire, c'est une chose que s'est permise Jean-Jacques Haneau par rapport à la réalité historique, alors qu'il y a toute une série de personnes qui sont des personnages historiques qui apparaissent, de vrais personnages qui apparaissent dans le livre, mais Umberto Eco s'arrange toujours pour qu'il n'y ait pas de liberté par rapport à l'histoire. Donc il y a par exemple Hubertin de Casals, qui a vraiment existé, qui a été un franciscain, qui est devenu bénédictin, et qui est du côté des franciscains spirituels. Je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. Il y a Michel de Cézanne, qui est le chef de l'ordre franciscain, qui a vraiment existé. Il y a Bernard Guy, qui a vraiment existé. On parle aussi de Guillaume d'Ockham, qui n'est pas présent, mais auquel on fait mention. On parle aussi des théologiens impériaux, qui sont qui étaient des franciscains aussi, Marcille de Padoue et Jean de Jandun. Enfin, en tout cas, c'est des théologiens impériaux, des religieux aussi, mais qui soutiennent paradoxalement une position contre celle du pape, qui considère en fait que le spirituel doit être soumis au temporel, et qui vont même plus loin, qui développent une sorte de pré-démocratie, enfin qui soutiennent des idées que le gouvernement des choses de ce monde devrait être confié au peuple en assemblée plus ou moins démocratique, ou à la meilleure part du peuple, mais c'est tout de même quelque chose qui fait signe vers une certaine modernité politique. Et donc tous ces personnages apparaissent dans ce livre. Mais voilà, je disais, le point de vue d'Umberto Eco est un peu sombre, mais il faut dire que l'époque aussi est un peu sombre. D'abord, il y a ces conflits, je disais, entre la papauté et l'Empire, mais on n'est plus dans le beau XIIIe siècle, hein, on est dans le XIVe siècle, et c'est en 1327, mais 20 ans plus tard, ça sera la Grande Peste Noire qui va endeuiller l'Europe entière, puisque un tiers de la population européenne veut mourir dans cette peste noire, et on entre aussi dans toutes ces crises multiformes de la fin du Moyen-Âge. Bon, la guerre de 100 ans qui dure de 1337 à 1453, donc 116 ans, il y a les famines, il y a les guerres, il y a les épidémies, donc on est dans un Moyen-Âge déjà plus sombre, tout simplement du fait même de l'histoire. Mais là, on est encore au début de ce moment-là, de cette période-là. Et dans ce contexte-là, eh bien, il va y avoir toute une série de débats, notamment deux débats importants dans le livre, qui sont entrecroisés avec l'intrigue policière. Parce qu'en fait, ce livre peut être lu au moins selon trois lectures. Il y en a peut-être même encore beaucoup plus, mais il y a trois lectures possibles. Il y a une première lecture, tout d'abord, c'est le polar médiéval, le roman policier. C'est ce qu'on appelle un « who done it », c'est-à-dire « qui l'a fait », hein, donc on cherche le coupable. Donc là, on tourne les pages, ou on regarde le film, ou on consulte la bande dessinée, avec l'idée de savoir, mais voilà, qui est le coupable. On mène l'enquête, on suit l'enquête menée par Guillaume de Baskerville, et c'est passionnant, et même si on ne comprend pas le reste, c'est pas trop grave, parce que on est mis en appétit par cette recherche du coupable. Et parallèlement à ça, il y a aussi les grands et les petits débats de l'époque, mais il y a deux débats principalement qui émergent dans ce livre. Il y a le débat sur la pauvreté et le débat sur le rire, ou plus largement la connaissance, mais là c'est le rire. Alors le débat sur la pauvreté, c'est un débat qui a vraiment existé à l'époque, qui s'est développé au sein de l'Église et principalement au sein de l'ordre franciscain. Donc Saint François voulait en quelque sorte suivre nu le Christ nu, hein. Il était du côté des pauvres, on l'a appelé le poverello, et donc au sein de son ordre est apparu vers la fin du XIIIe et début du XIVe siècle une tendance en faveur d'une plus grande pauvreté, et c'est ce qu'on appelle les spirituels, parfois les fraticelles. Enfin, c'est des franciscains qui veulent être dans une observance très stricte de la pauvreté originelle de l'ordre franciscain. Et qui sont illustrés par des personnages qui apparaissent dans le livre, comme je le disais, Hubertin de Casals ou un peu Michel de Cézanne. Et ces franciscains spirituels vont s'opposer évidemment à la papauté d'Avignon avec sa richesse, hein, ces prélats opulents, riches. Le pape Jean XXII va les condamner. Et on est sur fond de ce conflit entre franciscains et représentants du pape et le pape lui-même. Et donc ce que Eco imagine, c'est qu'il y aurait une rencontre justement entre cette abbaye, entre les représentants du pape et les représentants des franciscains spirituels. Et c'est dans une abbaye bénédictine, où les bénédictins, ils sont assez différents des franciscains, parce que les franciscains, ils sont vraiment pour la pauvreté absolue. Les bénédictins, eh bien, eux, ils sont individuellement pauvres, dans la mesure où quand on entre dans les ordres, quand on devient moine, on renonce à toute richesse. Mais l'abbaye, elle, peut être riche. Donc il y a en fait une richesse collective qui est celle de l'abbaye, même si chaque moine est pauvre. C'est tout à fait différent pour les franciscains, où ils doivent être pauvres individuellement, mais l'ordre lui-même aussi se veut un ordre mendiant, donc un ordre pauvre.
Du coup, avec une possibilité de possession de bâtiments ou pas du tout ?
Alors, pour les bénédictins, oui, mais pas pour les franciscains. Non, les franciscains se font en quelque sorte prêter leurs bâtiments, donc ils n'ont pas vraiment de richesse. Et le débat dans le livre porte sur la question de savoir est-ce que le Christ possédait en propre ses vêtements. Et donc, si le Christ possédait ses vêtements, ça veut dire que l'Église peut être riche et avoir des possessions. Mais s'il n'en a que l'usage, en quelque sorte, et qu'il ne les possède pas, alors l'Église doit être pauvre. Et donc les franciscains soutiennent que le Christ ne possédait pas ses vêtements, alors que les représentants de la papauté soutiennent que le Christ possédait ses vêtements et que donc l'Église a droit à avoir une certaine richesse. Et ce débat se passe donc dans l'abbaye bénédictine, mais ce qui est amusant, c'est que les bénédictins, en fait, ils devraient être plus proches de la position selon laquelle le Christ possédait ses vêtements, parce qu'ils ont quand même une certaine richesse, mais ils se trouvent pour des raisons politiques, du côté de l'empereur. Et comme ils sont du côté de l'empereur, ils sont contre le pape. Et ils sont en fait contre le pape et ils trouvent un soutien auprès de l'empereur. Et alors là, c'est assez amusant de voir comment l'empereur, qui lui n'est pas quelqu'un qui cherche à vivre de manière pauvre, mais va soutenir les franciscains spirituels dans leur lutte contre le pape, parce que lui-même est opposé au pape. Donc c'est assez complexe, évidemment, tout cet écheveau est assez touffu, bien entendu, il faut le démêler un petit peu. Parce que, justement, dans ce débat sur la pauvreté, la papauté sera du côté de la richesse possible de l'Église, les franciscains spirituels seront du côté de la pauvreté, et l'empereur, qui n'est pas spécialement, à titre personnel, quelqu'un qui vit dans la pauvreté, va soutenir les franciscains contre le pape, dans la mesure...
Sur le principe de « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ».
Exactement, sur ce principe-là. Et donc, on aura dans l'histoire un débat à la manière d'un débat scolastique hein, qui va se développer. C'est extrêmement bien écrit et extrêmement complexe, en fait, à suivre. On a un débat qui est mené entre les représentants de la papauté d'Avignon et les franciscains spirituels qui sont aussi du côté de l'Empire, au sein de l'abbaye. Et puis on aura aussi Guillaume de Baskerville qui lui va développer les thèses des théologiens impériaux, et on va retrouver un exposé finalement de la des thèses de Marcille de Padoue, auteur d'un Défenseur Pacis, le défenseur de la paix, et aussi de Jean de Jandun, qui sont les théoriciens et les théologiens impériaux qui soutiennent en fait hein, une primauté du pouvoir temporel sur le spirituel, et en fin de compte un exercice du pouvoir qui confie in fine le pouvoir au peuple ou à sa meilleure part et qui est en fait une sorte de jalon vers ce qui deviendra un mode de pouvoir et d'exercice du pouvoir démocratique.
Donc vous disiez, Benoît Berderie, qu'il y a pas trois lectures possibles de l'ouvrage, mais en tout cas trois axes principaux selon lesquels on peut lire ce nom de la rose. L'axe du roman policier, ici l'axe du débat théologique entre richesse et pauvreté de l'Église. Mais alors dans tout ce débat autour de la pauvreté, les discussions restent absolument concentré là-dessus, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui s'y glissent ?
Alors, le débat à proprement parler sur la pauvreté ne porte que là-dessus. Cela dit, il tourne au véritable pugilat parce que à la fin du débat, ils s'insultent les uns les autres, et ça va devenir plus complexe aussi dans la mesure où est arrivé avec la délégation pontificale Bernard Guy, cet inquisiteur dominicain, qui va découvrir au sein de l'abbaye d'anciens hérétiques dolciniens, donc des disciples de Fra Dolcino, qui lui aussi a vraiment existé, hein, et qui était quelqu'un qui s'était un peu inspiré de la pensée de Saint François d'Assise, mais qui a poussé plus loin. C'est une sorte d'extrémiste, en quelque sorte. À un moment, Guillaume dit, je crois, il voulait faire un monde meilleur et il l'a rendu pire, parce qu'en fait, ceux-là, ce sont des révolutionnaires qui vont mettre à feu et à sang les campagnes afin de voler de faire payer les riches, avec cette volonté de distribuer des richesses, mais par la violence. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre aussi que faut se rappeler qu'Umberto Eco écrit dans les années, donc en 80, 78-80, on est encore là dans le contexte des années de plomb en Italie, du terrorisme d'extrême gauche, des brigades rouges, de l'assassinat aussi d'Aldo Moro, etc. Et donc, il avait en ligne de mire, même si ça apparaît de manière un peu subtile, mais cette idée-là. Et Jean-Jacques Annaud aussi, dans son adaptation du film, il a donné une sorte d'explication sociologique de cet aspect-là en disant, en quelque sorte, les franciscains spirituels, ce sont les communistes ou les socialistes, ils veulent partager, etc. Les dolciniens, les hérétiques qui prennent les armes, ça c'est les terroristes d'extrême gauche, les brigades rouges. Et à l'inverse, du côté de la papauté, eh bien, on a les capitalistes, la bourgeoisie, ou voilà, avec ces variantes aussi, parce que les bénédictins aussi sont un peu de ce côté-là, même si objectivement ils sont associés à l'empereur et ils soutiennent les franciscains, mais en réalité ils les soutiennent pour des raisons, encore une fois, d'alliance contre la papauté, mais non pas de vénération de cette pauvreté qui est au cœur de la démarche des franciscains et surtout des franciscains spirituels. Donc voilà, on a vraiment ce contexte un peu, dans le contexte aussi de la guerre froide, hein, on est encore avant la chute du mur, on a cette opposition entre, eh bien, une opposition de toujours, on pourrait dire, hein, mais par rapport au partage des richesses, entre d'un côté les capitalistes et de l'autre côté les socialistes, communistes, qui sont plus pour le partage, et puis à l'extrême de ce mouvement-là, ceux qui prennent les armes pour imposer le partage des richesses. Voilà, ça c'est une manière de transposer dans un contexte plus contemporain. Mais je disais, évidemment, il y a un autre débat qui est au cœur de ce roman, c'est le débat sur le rire. Et parallèlement à cela, ou en lien avec cela, autour de ce livre écrit par Aristote, le deuxième tome de la poétique consacré à la comédie et qui donne ses lettres de noblesse au rire, parce que c'est dans la mesure où ce rire est justifié, accepté par Aristote, Aristote qui, bien sûr, est ce grand philosophe de l'Antiquité, mais qui aussi au Moyen Âge a été redécouvert et qui, à partir du XIIIe siècle en particulier, est devenu la référence ultime en matière de savoir médiéval. Alors à ce moment-là, il passait pour vraiment être une référence très moderne à l'époque. Par la suite, la Renaissance a dû se faire contre Aristote par une sorte de retour à Platon avec Galilée, etc. Mais ça, c'est une autre question. Mais au XIIIe et XIVe siècle, surtout au XIIIe siècle d'ailleurs, mais Aristote passe vraiment pour être l'auteur par excellence du savoir naturaliste sur les choses. Dante, dans la Divine Comédie, parle de lui en disant qu'il est le maître de ceux qui savent. C'est le professeur des professeurs. Et donc, à partir du moment où le rire est justifié par cette référence intellectuelle incontournable, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et c'est ce que ne veut absolument pas, en aucun cas, le vieux Jorge. Et il va tout faire pour empêcher que ce livre ne soit connu, alors qu'en fait il y a une copie de ce livre dans la bibliothèque, mais il veut tout faire pour éviter que ce livre ne tombe entre les mains de qui que ce soit d'autre que lui. Il va avoir plusieurs débats avec Guillaume de Baskerville autour du rire, du caractère licite ou non du rire. Pour lui, le rire est le rire est diabolique parce que le rire permet de prendre la distance par rapport aux choses. Et donc, si on rit, eh bien, on peut rire même de Dieu ou du diable. Et on peut ne plus avoir peur de Dieu. Et pour lui, la foi s'impose par la peur aussi. Et donc, il faut absolument éviter que ce livre qui justifie le rire ne soit diffusé. Et le rire lui semble tout à fait condamnable. Et donc ils ont un débat, notamment autour de la question de savoir est-ce que le Christ a ri? Alors pour Jorge, le Christ n'a pas ri. Il n'a jamais ri. Pour Guillaume de Baskerville, ce n'est pas sûr. Peut-être le Christ a ri. En tout cas, Guillaume de Baskerville défend les vertus positives du rire là où Jorge le condamne absolument. Et en fait, évidemment, ça, je n'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de dire qui est le coupable dans ce roman policier, mais en tout cas on peut dire que cet élément du rire et du livre d'Aristote est déterminant dans toute cette aventure et est au cœur véritablement du dénouement de cette histoire qui a pour cadre. C'est une autre référence littéraire qui a pour cadre cette bibliothèque labyrinthique et qui renvoie là à justement la bibliothèque de Babel, à l'ouvrage de Borges Fiction. Et d'ailleurs, ce bibliothécaire, hein, Jorge, est une référence directe, je l'ai déjà dit, à Borges. Alors on a reproché un peu à Umberto Eco d'avoir finalement fait de Borges un personnage pas tellement sympathique dans Le Nom de la Rose, alors que Umberto Eco avait beaucoup d'admiration pour Borges, mais voilà, c'est vrai qu'il n'en a pas fait un personnage sympathique dans ce livre, même si il est tout à fait central. Et il est intéressant de noter que la redécouverte de Borges en Italie a suivi la publication du Nom de la Rose. Donc ça a quand même joué un rôle favorable aussi pour simplement la redécouverte de ce grand auteur argentin. Alors je disais, il y a trois axes de lecture possibles. Il y a premièrement le polar médiéval, deuxièmement les débats et particulièrement celui sur la pauvreté du Christ ou le rire et la connaissance. Et puis la troisième lecture possible, c'est au fond d'aller chercher toutes les références culturelles, littéraires que l'on trouve dans ce livre. Alors toutes, c'est compliqué, hein, parce qu'il y en a énormément. Et je disais par boutade, hein, Umberto Eco a dit, il n'y a pas une phrase qui soit de moi dans ce livre. C'est peut-être pas tout à fait exact, mais tout de même, c'est vrai qu'il prend son inspiration à bien des endroits. Pour la structure, je disais, ça évoque un peu Sylvie de Gérard de Nerval. Il y a évidemment la référence à Voltaire, le Zadig de Voltaire. Il y a la référence à Conan Doyle, Sherlock Holmes. Il y a beaucoup d'auteurs médiévaux qui sont cités. Parfois tout à fait textuellement et parfois simplement dans la manière d'écrire, de rédiger certains passages. Il y a évidemment Borges et la bibliothèque de Babel, mais il y a énormément d'autres éléments qui sont repris. Donc on peut vraiment s'amuser à lire le livre en cherchant tous ces éléments d'intertextualité et de références littéraires, mais on peut aussi le lire de manière, je dirais, naïve ou enfin sans rechercher toutes ces richesses de sens. Mais c'est ça qui rend ce livre absolument fascinant, c'est cette multiplicité d'entrées possibles dans cette œuvre. Cette œuvre qui porte d'ailleurs un titre tout à fait intéressant. On peut en dire un mot. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, si, il y a une explication, mais elle n'est pas donnée dans le livre. Donc, Le Nom de la Rose, c'est un très beau titre. C'est un très beau titre qui permet, en fin de compte, de garder une grande ouverture. On n'est pas. On n'est pas, comment dire, on n'est pas dirigé sur une piste avec un titre pareil. Ça reste très ouvert. D'ailleurs, là aussi, en manière de plaisanterie, quand on demandait à Umberto Eco, on a demandé un jour pourquoi ce titre, il a dit parce que Pinocchio avait déjà été pris. Voilà. Mais autrement, il avait pensé au départ à l'appeler l'abbaye du crime. Mais bon, l'abbaye du crime, c'est un peu plat et directement, ça.
C'est moins subtil.
C'est moins subtil et ça pousse vers la lecture uniquement policière. Il y avait aussi la possibilité de l'appeler simplement Azzo de Melk, mais en fin de compte, il a opté pour Le Nom de la Rose et je pense qu'il a bien fait. Mais alors, il y a une explication. En fait, le titre, hein, le Nom de la Rose, n'est pas mentionné tel quel dans le livre, mais à la fin du roman, on trouve cette phrase en latin et ce sont les derniers mots: Stat rosa pristina nominee. Nomina nuda tenemus. Alors, en fait, ça peut se traduire de la manière suivante. La rose des origines n'existe plus que par son nom. Nous n'en gardons que des noms vides. Et c'est une phrase que Umberto Eco met sous la plume d'Azzo de Melk, hein, dans les derniers mots de sa chronique, en quelque sorte, mais qui sont repris de vers latins de Bernard de Morlaix, qui est un auteur du XIIe siècle. Et en fait, dans la phrase d'origine, c'était pas la rose, mais c'était Rome. La Rome des origines n'existe plus que par son nom. Nous n'en gardons que des noms vides. C'était dans un traité qu'on appelle un traité de contemptus mundi, c'est-à-dire un traité de mépris, de rejet du monde. Et c'est une phrase un peu nostalgique, évidemment, dans l'esprit des ubi sunt, où sont les passées, les neiges d'antan, etc. Donc c'est un peu de la nostalgie. En fin de compte, les réalités du passé sont mortes. Il ne nous en reste que des noms. Bon, c'est assez beau. Mais encore une fois, ça permet en fin de compte une lecture très très ouverte, hein. On peut interpréter ça diversement. Dans l'apostille du nom de la rose, Umberto Eco en dit quelques mots, mais il ne commente pas vraiment. Il laisse en fin de compte le commentaire du lecteur beaucoup plus libre. Hein. C'est comme dans le cas même de sa théorie de l'œuvre ouverte, hein, en quelque sorte, le lecteur a un rôle actif dans la manière dont il interprète eh bien, un livre. Et donc. Donc c'est peut-être aussi un plus petit clin d'œil aussi à la philosophie nominaliste, hein, qui considère qu'il n'y a que des noms, et qu'au-delà des noms, on a affaire à des réalités individuelles, mais que fondamentalement, les noms, ne sont pas des concepts généraux, mais simplement des noms. Donc voilà, il y a moyen d'interpréter ça. Et puis aussi, il dit que le symbolisme lié à la rose est tellement polymorphe, polysémique, qu'en fin de compte, eh bien, la rose n'évoque plus rien de particulier, tellement elle a de sens possible, en fin de compte, hein. Il y a les roses de Ronsard, la rose mystique, la guerre des roses, etc. Là. Bon, voilà, donc, en fin de compte, on peut avoir un titre qui a cette dimension un peu mystérieuse, un peu magique, mais qui ne prédétermine aucune lecture particulière, du livre et garde son mystère.
Donc ce roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose, a, vous le disiez en début d'interview, Benabère de Ry, qu'il a une actualité particulière, puisqu'il a été adapté en bande dessinée, dont le deuxième volume vient de sortir. Ça s'inscrit dans une tendance assez générale aujourd'hui d'adapter des romans en bande dessinée.
Alors oui, je crois qu'il y a de plus en plus d'adaptations de romans, d'œuvres historiques en bande dessinée. Alors bon, je dis beaucoup, mais dans la production, il y a environ 10% de la production de bande dessinée qui concerne des œuvres historiques ou des adaptations littéraires ou historiques. Oui, donc voilà, c'est quand même assez conséquent, même si ça ne représente pas l'essentiel, hein, de la production des bandes dessinées. Mais effectivement, Le nom de la rose, qui est quand même une œuvre qui a été écrite en 1980, donc ça fait maintenant un peu moins de 50 ans que cette œuvre a été écrite, et pourtant elle est toujours finalement vivante, mais justement du fait, bien sûr, de ses traductions multiples, hein, puisque, encore une fois, elle a été traduite en plus de 40 langues, diffusée à plus de 50 millions d'exemplaires, mais aussi, bien entendu, par ses adaptations diverses, donc celle au cinéma du film de Jean-Jacques Hano, qui, sorti en 1986, a fait l'objet d'une réédition, en quelque sorte, enfin, sur base des copies d'époque, par un procédé, bon, dans le détail duquel je ne pourrais pas entrer, mais il a été disponible en 2024 et il est ressorti en salle de cinéma, dans les salles de cinéma, dans une meilleure version que celle qui avait été diffusée à l'époque. Par ailleurs, il y a cette série en 8 épisodes de 2019 qui, là aussi, a permis, en fin de compte, qu'on redécouvre eh bien, cette intrigue, cette œuvre, Le nom de la rose. Maintenant, la bande dessinée de Milo Manara, 2023-2026, et puis l'opéra. Donc voilà, le nom de la rose, manifestement, est une œuvre qui continue d'exister et de vivre dans le domaine culturel jusqu'à aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais donner la parole à Umberto Eco lui-même, qui disait ceci: qui ne lit pas à 70 ans n'aura vécu qu'une vie, la sienne. Qui lit aura vécu 5 000 ans. Il était là quand Caïn a tué Abel, quand Jean Valjean a pris Cosette par la main, quand l'aube se levait pour Victor Hugo. Parce que la lecture, c'est une immortalité à l'envers.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Berderic de m'avoir accordé cette interview. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve jeudi ou vendredi prochain pour une autre histoire de savoir. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir.
What?